Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, les Chemins de la philosophie vous proposent des émissions spéciales cinéma et philosophie. Aujourd'hui, cinquième et dernier temps, les vacances de Monsieur Hulot, de Jacques Tati.
Ici, Radiodiffusion Télévision Française, programme parisien. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Notre prochaine émission aura lieu demain à 6h30.
Les nouveaux chemins écoutent le monde en multipiste tous les jours en compagnie de Tristan Grenassia, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie et Marianne Chassor. À la réalisation au bord de la mer, Nicolas Berger. À la lecture de son sans dialogue, Jean-Louis Jacopin. Avec aujourd'hui la prise de son, justement, David Federman avec deux N. h 51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine, qui après avoir gagné sa partie de tennis grâce à son coup droit faramineux, vous donnera envie de lire le livre du philosophe Simon Critchley, Bowie, philosophie de l'intime, publié aux éditions de La Découverte.
Oh, un coquillage!
Dernier temps de notre exploration philosophique du Tati Monde. Nous allons aujourd'hui explorer l'univers sonore de Tati en suivant Monsieur Hulot qui part en vacances. Chez Tati, le travail sur le son est autre chose qu'une affaire de technique. C'est un acte d'auteur qui construit une perception singulière. Alors comment la création artificielle du son propose-t-elle un modèle d'écoute subjective? Comment le surgissement de sons brefs et discontinus nous renseigne-t-il sur la discontinuité de la réalité même, derrière l'illusion de continuité du monde? Autant de questions passionnantes auxquelles l'ingénieur du son et le professeur à l'ENSAT d'analyse et des pratiques du sonore, Daniel Dehay, vient tenter de répondre aujourd'hui, filet de pêche à la main. Bonjour à vous, Daniel Dehay.
Bonjour, Adèle.
Oh, encore un.
J'ai stylisé le dialogue. En stylisant le dialogue, on n'entend que des petites phrases comme « on se prépare, c'est la fête ». Alors, pour permettre cet effacement, il fallait qu'en contrepartie, je dise oui, mais si vous n'entendez pas tellement bien le dialogue, c'est parce qu'il y a la mer. Alors la mer, vous allez l'entendre, parce que quand vous arrivez sur une plage, peut-être que vous n'entendez que, comme phrase, comme dans les vacances de Monsieur Hulot, « Oh, un coquillage !» Cette phrase n'a aucune construction littéraire, disons, je ne suis pas un littéraire. C'est bien cette balance que je voulais d'une certaine vérité de ma bande sonore.
Jusqu'à la dernière vague. On vient d'entendre, Daniel Dehay, on vient d'entendre le générique de début des vacances de Monsieur Hulot. Et ce qu'il y a d'absolument bouleversant avec ce générique, mais avec l'univers sonore de Tati en général. Et c'est pour ça, je tiens à vous le dire d'emblée, que je suis vraiment ravie de faire cette émission, parce qu'il y a vraiment quelque chose de bouleversant dans cet univers-là. Eh bien, c'est que même si on n'a pas vu le film, ce générique raconte une histoire que l'auditeur peut s'imaginer.
Oui, et en fait, ce générique raconte aussi les constituants, finalement, c'est rassembler les constituants de ce film. C'est-à-dire que finalement, le film va se balancer entre des musiques et des sons. Et finalement, les dialogues sont ramenés au niveau des sons. C'est-à-dire qu'on n'a pas une distribution standard des outils du cinéma, c'est-à-dire des bruits, des voix et des musiques, mais là, quelque chose qui se situe dans entre un commentaire musical et qui finalement c'est une musique qui ne se place pas du côté de l'illustration des scènes, c'est une musique qui est généraliste, on pourrait dire, du film, qui donne l'état d'un regard général et pas du tout une musique qui appuierait un sentiment ou un état d'une scène particulière. Non, c'est une musique générale.
Composée indépendamment du film.
Voilà,
c'est ça qu'il faut dire.
Absolument, ouais. Qui est composée. Et d'ailleurs, c'est la deuxième version de la musique. Hein. C'est dans la première version du film, c'est pas cette musique-là. C'est une musique qui est beaucoup plus du type Glenn Miller et qui finalement nous dit que l'Amérique est déjà là, mais il abandonne ça pour ramener cette musique-là qui est plus proche de nous.
Quel temps fait-il à Paris? C'est le titre de la mélodie d'Alain Roman.
Ça,
hein.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Finalement, les bruits sont les éléments qui caractérisent aussi les voix. C'est-à-dire que dans ce film, les voix, il les emploie pour leur son. Il les emploie pour leur différence sonore. Et d'ailleurs, il n'y a jamais de dialogue. On n'a que des monologues. C'est des adresses ou des paroles généralistes, des paroles « Oh, elle est froide » ou « Tiens, un coquillage », voilà, on a entendu ça. C'est-à-dire que on parle à l'autre, mais on n'attend pas de réponse, quoi. Voilà. Donc, on décrit le monde auquel on est convié d'assister. Tati nous place face à des plans larges, d'ailleurs, toujours, le plus souvent très très larges, dans lequel il se passe des détails qui se succèdent. Il n'y a pas un état en épaisseur d'une continuité qui ferait coexister les éléments, monter les uns sur les autres. Non, non. On a un son, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est-à-dire qu'on est comme dans notre écoute du monde, lorsqu'on écoute le monde dans la vie quotidienne, on n'écoute jamais deux sons en même temps. On écoute un son, puis on est attiré par un autre, puis par un autre. C'est-à-dire qu'il nous donne finalement une écoute plutôt qu'une coexistence saturée d'événements dont on n'a que faire finalement.
C'est en ça qu'on peut dire que cette discontinuité des sons qu'il produit par le fait qu'il fait surgir des sons comme ça de manière inattendue tout au long du film, va construire une perception subjective du son. C'est ça qui est paradoxal.
C'est ça.
Que chaque spectateur va lui-même investir cet univers sonore à sa façon et avoir l'impression qu'il est à l'écoute du monde réel.
Oui, en fait, l'écoute, c'est la caractéristique là justement de l'écoute, c'est que chacun fabrique en lui le référent. C'est-à-dire que quand j'entends un objet, c'est ma mémoire qui le formalise, c'est ma mémoire qui rend cet objet existant. C'est-à-dire que le sonore, d'abord, il disparaît très très vite. C'est sans cesse une espèce de zone très étroite entre surgissement et disparition. Et donc, c'est par un arrêt en nous, dans notre mémoire de cet objet, donc un façonnement de cet objet par l'acquisition qu'on a du monde, des sons du monde, qu'on a eu depuis notre naissance. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est, du coup, une personnalisation, c'est-à-dire chacun va l'entendre en fonction des affects qu'il a eus du monde.
Alors, ouais, on va essayer, prenons un exemple hein, pour voir ce que les affects que ça va éveiller chez nos auditeurs. C'est le début du film Des vacances de Monsieur Hulot. On va entendre grâce au montage, le montage qui est celui du film, hein, les bruits de la gare, des haut-parleurs qui ne disent rien, hein, qui marmonnent en ne disant rien, du train et de la fameuse voiture de Monsieur Hulot qui, au dire de Tati, était un véritable personnage, voire personnage principal du film. Écoutons.
Thank you.
Daniel Dehès, il y a un terme qu'il faut prononcer pour qualifier ce que l'on vient d'entendre, et c'est sans doute celui de synchronisme. En fait, il y a une forme de c'est votre terme, hein, la fusion du son et de l'image qui fait toujours finalement disparaître le son pour mieux réintroduire peut-être des bruits. Il n'y a pas de hiérarchie en fait entre bruit, musique et paroles.
Non, il n'y a pas de hiérarchie. Ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est la densité des éléments et de leur diversité. C'est-à-dire que la critique des médias, le haut-parleur dit quelque chose qui est incompréhensible. Et on aura ça tout du long du film. C'est-à-dire que on a la radio qui nous donne les cours de la bourse après, on a un discours politique sur l'Europe, on a dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure la fin des émissions, la Marseillaise, et là tout le monde se lève et va se coucher, hein, dans le film. Donc on a des choses qui sont soit des choses formelles, soit les éléments des médias qui sont les plus boring, on dit en anglais, bourratif. Enfin, ouais. Voilà. Donc il y a vraiment ça dès le début du film. On est comme ça en espèce de rupture avec ce qui nous est dit, ce qui nous est adressé par les haut-parleurs. Faut pas oublier que c'est le début des haut-parleurs, c'est-à-dire que c'est le nazisme qui a vu se développer le haut-parleur, hein. Et donc là, on est au début des sonorisations des quais de gare.
En 53, on est. Voilà. Le film sort en 53.
Voilà, c'est ça. Donc c'est on commence à diriger les touristes, à les organiser, etc. Et les touristes, d'abord, le système ne marche pas, et les touristes sont ingérables, quoi. Donc il y a ça. Et puis, alors, on va avoir une succession d'interjections qui sont dans cette ambiance de quai. Finalement, ça n'est pas une ambiance faite avec un magnétophone qui serait sur place et qui enregistrerait la continuité sonore d'une foule. Pas du tout. C'est des éléments qui ont été faits un par un, qui sont additionnés sur différentes pistes et qui fabriquent une discontinuité assemblée, amassée, pour fabriquer la diversité. Du coup, on a des voix qui sortent, des éléments qui sortent et qui sont très distincts. Ensuite, on a le son du train, et ce son du train quand il part, hein, enfin, on a d'abord le 4 gars, mais le son du train quand il part, c'est une espèce de rythmique extrêmement précise, c'est vraiment un système très, très droit. À l'opposé de ça, immédiatement après, la pétarade de la voiture, qui elle est complètement à l'inverse, qui est asthmatique, discontinue, on ne sait jamais où ça va aller, si ça va s'arrêter, si ce moteur s'arrête, etc. Et puis une voiture qui dépasse, et cette voiture, elle est la voiture américaine, qui est douce, qui est ronde, qui klaxonne avec ce klaxon américain, qui est tout à fait à l'opposé. Lui se gare sur le bord, et ensuite on a un plan suivant où on voit les deux voitures descendre d'une rue. La première n'est pas bruitée. Il ne met aucun son sur la première pour mettre un son sur la voiture de Hulot qui apparaît déjà dans la petite ruelle et qui va évidemment perdre ses boulons, être secouée sur les pavés et nous montrer son existence plastique, hein, son existence, plutôt sa décomposition permanente. Quoi, voilà.
C'est comme si l'utilisation du son par Tati guidait le regard du spectateur.
Ah, tout à fait, c'est même l'essence même du travail de Tati, c'est de désigner dans des plans très larges, par le son, ce qu'il faut voir. Et ça, il va le développer, bien sûr, dans Mon Oncle, mais en fait, il le fait déjà dans ses tout premiers films, même dans les courts-métrages. Soigne ton gauche, par exemple, c'est des éléments qui jouent entre deux zones d'une image, hein, et où on a d'un côté les coups de poing des boxeurs et de l'autre côté les bottes de paille, etc., qui se répondent, et puis lui qui marque les points sur le mur en indiquant le nombre de bottes de paille qui sont chargées et ce qui correspond au nombre de boxeurs qui tombent KO, quoi. Et donc il a tout le temps des liens de synchronisme, il a tout le temps des liens de synchronisme, mais de choses qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui participent d'un regard général, d'un regard, il nous dit, regardez bien, le monde est absolument incroyable, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus intelligent et beaucoup plus intéressant que vous croyez. Devenez observateur, mais par l'audition. Et en fait, le spectateur ne se rend même pas compte que c'est par l'audition qu'il voit. C'est-à-dire que l'audition est toujours clandestine. On n'entend rien au cinéma, d'une manière générale. À cause du synchronisme, justement.
C'est-à-dire que l'image prend toujours le dessus sur le son.
Voilà, parce que nous sommes, avant tout, nos neurones travaillent plus vite sur l'information qui nous arrive de l'œil que ceux de l'oreille. Et le sonore est toujours une confirmation, puisque c'est un élément qui découle, c'est une résonance, une conséquence d'un événement qui a été vu quand il est à l'image. Donc, il est analysé en second, comme caractéristique de l'événement qu'on a vu. Et donc, en tant que second, on n'a pas l'impression que c'est celui-là qui est important. On a l'impression que c'est ce que l'on voit. Mais en fait, ce qui travaille derrière, c'est toute la qualité de ce qui est vu. C'est-à-dire, c'est la chair des images, le sonore. C'est sa matière, sa matérialité, sa plasticité. C'est ses flux, c'est sa vitesse, c'est sa densité, etc. Tout ce qui caractérise le vivant.
On va écouter la scène de ping-pong Vacances de Monsieur Hulot maintenant. Alors, moi, je ne vais rien en dire. On va voir ce que les auditeurs vont imaginer sur cette scène et puis ensuite, on la commentera.
C'est à qui de jouer? Que?
Madame,
voilà votre
fichier.
Alors, ils ont bien mangé, c'est pas tout.
Oh oui, ils ont fini le plat du jour et la soupière. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Allons.
Mademoiselle, je vous en prie. Vous avez lu l'exposé de Bertrand, voyez-vous, cet enfer électoral tout entier, et surtout aux femmes qu'il appartient de protester contre le bourgeoisisme décadent. La femme au foyer, d'accord. D'accord, mais socialement éclairée et politiquement consciente.
Je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage que le docteur Dufresnoy a publié sur cette question. Il s'agit de pallier par une thérapeutique appropriée à certaines déficiences, à la fois organique et mentale.
Good night. Excusez-le, monsieur, il vous a peut-être ennuyé. Vous êtes très aimable. Merci.
That's fine. Good night.
Et bien que toutes les apparences soient contre ma thèse.
Bonsoir, monsieur.
Comment décrire cette scène, Daniel Dehaet, hein, elle est riche et à la rencontre de quatre histoires différentes.
Ouais, et c'est merveilleux parce qu'on entend tout, parce que voilà, c'est l'évacuation au fur et à mesure des surgissements. C'est-à-dire qu'il nous donne un élément et puis il le retire pour faire entendre l'élément d'à côté. Et alors qu'actuellement, dans le cinéma, on a des continuités qui se surexposent, hein, on a des ambiances qui n'arrêtent pas de courir. Hein, quand on est à la campagne, en plein air, on nous met les petits oiseaux en permanence et l'ambiance des cigales ou des grillons. Là, au contraire, dans, par exemple, les vacances, au début, quand la voiture s'arrête et cale dans une côte, on entend les petits oiseaux qui arrivent pour manifester justement, enfin, le silence qu'on peut entendre. Mais ça dure 7 secondes, même pas 3 secondes, cette séquence. C'est-à-dire rien. Il y a des vélos qui passent, puis une voiture est terminée. L'ambiance de nature, alors que tout se passe dans la nature, elle n'a existé que pour manifester le fait que la voiture a calé. Là, c'est pareil. On a alors un système répétitif qui est le ping-pong et qui va scander la scène, qui va faire retour, etc., dans lequel il va glisser une partie de carte, un fauteuil qui est tiré, etc.
Fauteuil à bascule en osier,
voilà,
on entend.
Exactement. Un intellectuel qui tient un discours, alors, à l'époque, en plus sur la question du féminisme, enfin, c'est quelque
qui
chose...
Qui fait la cour à une jeune et fille qui voilà. Se prend mal parce qu'elle est en train de regarder Monsieur Hulot en train de jouer au ping-pong.
Exactement. Donc, on a là une espèce de succession de tableaux, mais qui tout le temps reste lisible. C'est très intéressant. intéressant d'entendre le son séparément, parce que on voit le mode de construction, on voit la façon qu'il a de décharger les événements et de tour à tour les désigner. On voit bien que là, c'est un parcours qu'il fait pour nous faire vivre une scène.
Et là, la rencontre entre la discontinuité des sons et la continuité de l'image est particulièrement frappante, puisque pour le dire quand même en deux mots, on a Monsieur Hulot qui joue au ping-pong, on ne voit pas le contre-champ, on ne sait pas contre qui il joue. Il est dans une pièce qui se situe à la gauche de l'écran. Il n'apparaît que lorsqu'il prend du recul pour attraper la balle dans un geste de danse très burlesque qui fait sourire magnifique à chaque fois. Ou à ce moment-là, il apparaît dans la salle principale de l'hôtel, à l'espèce de pension, où jouent aux cartes deux groupes de personnes qui sont en train de discuter. Lorsqu'il va venir chercher la balle qui s'est égarée, il va tourner le fauteuil d'un des personnages qui fait qu'il va poser sa carte sur la table d'à côté et pas sur la table avec laquelle des participants avec lesquels il est en train de jouer, ce qui va créer un quiproquo suscitant ensuite une engueulade entre les joueurs. Ouais. Et enfin, à l'arrière-plan, se trouve donc ce jeune intellectuel qui fait la cour à la femme. Tout se tient là dans une forme aussi de synchronisation qui est exceptionnelle.
Voilà, dans un plan général. Et ça, c'est absolument incroyable. Et l'organisation du temps et de l'énergie. Comment l'énergie est distribuée? Comment elle est creusée? Comment elle passe d'un personnage ou d'une scène d'un coin du plan à l'autre coin du plan? Et c'est voilà, toute la stratégie de Tati se trouve là. On retrouve exactement la même stratégie qu'il avait dans le premier plan du film, avec le quai de gare et puis voilà, les trains qui rentrent, les gens qui sortent du souterrain, puis l'autre train qui passe, etc. Un ballet, quoi. À chaque fois, c'est l'organisation d'un ballet. Et Tati est extrêmement précis, c'est-à-dire qu'il montre à chacun la gestuelle qu'il doit avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petit rôle chez Tati. Mmh. Les moindres figurants doivent faire ce qu'il leur demande, et il indique à chacun le moindre détail de mouvement. C'est-à-dire que du côté visuel comme du côté sonore, tout est pris en main, tout est décidé, tout est organisé, tout répond à la même règle. Ça, c'est assez exceptionnel. Et pour le son, c'est pareil. C'est-à-dire que les bruitages, il les confie pas à un bruiteur.
Il fait tout après coup, hein.
Voilà.
Le tournage, il est silencieux, en réalité.
Absolument.
Enfin, rien n'est enregistré pendant le tournage.
Rien du tout.
Tout est mixé après coup.
Tout est en post-production. Donc, chaque son a été choisi. Chaque élément est choisi spécifiquement. Alors, il choisit, à cette époque-là, de travailler uniquement en auditorium, donc dans des studios sourds. Et c'est lui-même qui produit les sons. Il travaille lui-même à la confection des matériaux. C'est-à-dire qu'il y a un toucher qui est le même que celui disons du phrasé des acteurs, du déplacement dans l'espace de Tati, par exemple avec le ping-pong, le jeu de ping-pong, mais le toucher existe aussi dans la manière dont on bruite, dans la manière dont on appuie un son, ou on choisit de prendre une balle de ping-pong qui est percée, qui est crevée au moment où elle rebondit, alors que l'autre balle est parfaite. Il y a là un choix de chaque élément.
Et son génie dépasse largement l'écran de cinéma, puisque finalement la manière qu'il a de solliciter l'attention du spectateur va inviter celui-ci à redoubler d'attention, y compris dans la vie réelle et pas simplement au cinéma. C'est ce que décrit Barjavel dans un texte, c'est en 1944, qui s'appelle « Cinéma total, essai sur les formes futures du cinéma », où lui-même il sort d'un film parlant, des premiers films parlants qu'il voit, et au cinéma, à Lyon, et il se demande si finalement le fait que le cinéma devienne parlant ne va pas rendre le cinéma trop bavard et tuer une certaine attention au son. Écoutez-le, vous verrez la manière dont ce texte vient expliquer, sans le savoir peut-être, ou décrire l'univers de Tati.
La tête basse, grelottant un peu, je regagnais à pas lents mon lointain domicile. Les gros pavés mouillés de brume luisaient à la lumière des becs de gaz vert. Je pensais à ce que je venais de voir. J'étais trop jeune pour construire des idées générales, mais assez pour posséder de la poésie plein le cœur et pour m'attrister des erreurs. Dieu merci, en cela je n'ai point vieilli. Il m'était facile de deviner que le film parlant s'engageait en courant dans un mauvais chemin. Il allait devenir le film bavard. Et j'écoutais tout en marchant les bruits de la nuit. J'écoutais ce monde que les gens inattentifs ignorent, que le cinéma aurait pu leur révéler et qu'il allait systématiquement négliger. Les bruits évidents d'abord, ceux qui font la mélancolie des heures obscures. Le dernier tramway qui tinte, loin. Un train qui roule. Un chien affamé qui fait rouler le couvercle d'une poubelle. Derrière une fenêtre au rez-de-chaussée, un homme ronfle. Je le devine gras et velu. Un couple rentre. Le pas de la femme, pointue, pique le trottoir, celui de l'homme l'écrase. Ils marchent l'un à côté de l'autre sans se donner le bras. Elle fait 5 pas quand il en fait 4. Le petit pas rattrape le grand, le dépasse, l'attaque de nouveau. Un coup de vent froisse les arbres de l'avenue, secoue un rideau de fer, se coupe en deux en gémissant au carrefour, gronde un peu dans un couloir, sans insister, s'enfuit, s'éteint. Rumeur douce des feuilles qui retombent à leur place. Je voudrais arracher le ciment qui me bouche les oreilles. Tant de cris, tant de bruits, tant de chants ne me parviennent pas. Cette maison qui dort en est pleine. Et toutes ces étoiles entre les cheminées, et sur cette fenêtre ces graines qui germent dans un pot, pourquoi ne les entendons-nous pas? Le cinéma va les entendre pour nous. Les appareils hypersensibles des laboratoires écouteront à notre place les bruits de l'univers trop ténus pour nos sens. Nous les transmettrons par la bande sonore du film.
Au vent de juillet, ma mer effeuillée, les vagues bleues des vacances, et dans la clarté, le sable doré. J'avais demandé, quel temps fait-il à Paris? Le ciel est-il noir ou gris?
Il est plutôt gris et il fait extrêmement chaud. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h28, c'est le 4e et dernier temps de notre série d'émissions consacrée à Jacques Tati. Vous êtes en train d'écouter la chanson du film « Les vacances de Monsieur Hulot, quel temps fait-il à Paris ?» composée par Alain Roman. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir l'ingénieur du son et professeur à l'ENSAT, Daniel Dehay, qui vient vous parler donc de l'univers sonore de Tati. Daniel Dehay, qui est l'auteur, entre autres, de « Entendre le cinéma » et « Pour une écriture du son » paru chez Klinksic, également de « L'écriture sonore » aux éditions Entrevues.
Je vous ai perdu. Vous êtes loin des vacances, la plage et le vent déchirant. Je vous écris tristement, quel temps fait-il à Paris? Ici le ciel est tout gris. Mais quand je pense à nous deux, dans mon cœur, c'est tout bleu. Je n'ai pas trop de chagrin. Votre ciel bleu, c'est le mien. Un souvenir de bonheur, votre nom, une fleur. C'est le temps de mon cœur. Votre nom, une fleur, c'est le temps de mon cœur.
Et voilà, maintenant on aura cette mélodie dans la tête, tout en ce début d'été, Daniel Dehay. Alors, sur le texte de Barjavel, qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous ai vu réagir.
Ah oui, c'est magnifique, parce que c'est exactement la question que pose Tati. C'est-à-dire, il en finit avec les dialogues. Hein. Et d'ailleurs, il le dit dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure de l'interview, il dit l'effacement des dialogues. Ouais. Hein. Et là, dans ce texte, évidemment, c'est retour à révéler la diversité, la singularité, la multiplicité des événements du monde. Par contre, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il finit sur la question de la technique et de la technologie en disant que ça serait la technologie qui nous emmènerait encore plus loin.
Les appareils hyper hypersensibles des laboratoires écouteront à notre place les bruits de l'univers trop ténus pour nos sens.
Voilà, écoutez à notre place. Mais non, c'est nous qui écoutons. Ah. Et c'est finalement ça. Enfin, pour moi, le gros problème de la question sonore, c'est qu'on ramène toujours le sonore. Par le fait qu'il est virtuel, par le fait qu'il n'est pas là en permanence devant nos yeux comme l'image, on le renvoie aux outils, tout le temps. C'est-à-dire quand on parle de son, on parle des outils. Tati, en fait, fait tout l'inverse. Alors, il n'est pas pour autant contre les outils, puisqu'on voit bien que finalement son cinéma suit la technologie avec une grande acuité. C'est-à-dire que même avec Jour de fête, déjà il tourne en couleur, etc. Et donc il expérimente sans cesse. Donc la technologie, il la connaît bien. Mais il se tient à l'écart, c'est-à-dire que il ne va pas accepter la continuité de l'enregistreur et il va organiser la mise en scène du sonore par la discontinuité des sons. Et c'est ça qui est remarquable. C'est-à-dire qu'il a quand même une résistance à la technologie. Il a une résistance, comme il a une résistance à la modernité. Dans Mon Oncle, c'est ça qu'il fait. C'est qu'il s'oppose pas à la modernité. Mais il a un caractère de résistance permanente. Il a un caractère critique. Il montre, voilà, ce à quoi il faut pas se laisser aller. Voilà. Et alors, ce qui est le plus paradoxal, c'est que quand on arrive, jusqu'à Mon Oncle, il va travailler avec du son optique, avec des sons qui sont construits un à un en studio, etc. Avec un travail sonore qu'il dirige et qu'il compose élément par élément. Dès qu'on arrive sur Playtime, l'arrivée des nouveaux enregistreurs l'emmène dans un autre monde et dans une autre approche du sonore. C'est-à-dire que là, il commence à travailler in situ. Il va partir, par exemple, dans la première scène de Playtime, qui se fait dans l'aéroport, il va aller à Marly-le-Roi, dans une compagnie d'assurance qui vient d'être ouverte, qui s'appelle les assurances du groupe Drouot à l'époque, et il y a un hall immense en marbre. Et donc, il va enregistrer tous ces sons. Là, j'ai retrouvé la liste des sons qu'il enregistrait à cet endroit-là, qui sont extrêmement divers, qui sont pas seulement les sons de cette scène. Et donc, on va avoir là déjà un rapport à l'acoustique des lieux. C'est-à-dire que ça ne sera plus des sons qui seront dans le coton des studios, mais ça sera des sons qui seront rapportés à un volume, à une architecture, et qui rendront compte de l'architecture du... Ce film, bien évidemment, c'est un film sur la question de l'architecture, sur la question de la transparence, et donc, il va mettre en opposition l'intériorité, mais qui est sous forme continue avec les résiduels, les souffleries, les climatisations, etc., à l'extériorité qui est les voitures qui passent. Sauf qu'il le fait non plus avec des éléments pris séparément, bien qu'il le fasse aussi, c'est-à-dire il va enregistrer la nuit des voitures prises une à une avec Moumont, par exemple, mais il va aussi avoir des ambiances en continu. Et ces ambiances continues vont à l'inverse de son travail. Et c'est là où il perd pied et où la technologie le rattrape et l'emmène à mon sens, lui font perdre justement la distance qu'il avait au préalable et produit un ennui.
Ça, on lui a reproché effectivement de s'être perdu dans la création d'une discontinuité des sons qui crée en fait finalement une continuité qui sature l'attention.
Oui. Alors là, en fait, il y a une continuité qui est surchargée, qui est permanente, ouais. Mais la continuité, elle est surtout produite par la musique qu'il a en scène pendant toute la scène du restaurant, qui crée...
La deuxième partie de Playtime.
Voilà, dans la deuxième partie
de Playtime.
Garden. Et alors qu'on voit que dans Playtime, toute la première partie répond exactement à sa méthode qu'il avait avant, et est formidable, toute la deuxième partie, qui est une partie critique, et on comprend bien qu'il a là une déconstruction formidable qu'il est en train de faire. Mais sauf qu'il l'a fait sur un continuum sonore derrière, qui nous empêche de voir, d'entendre, de distinguer la différence. Il y a une espèce de porteuse générale, une espèce de magma derrière qui est ennuyeux.
Alors comment vous expliquez ça, que Tati lui-même, si Tatillon, comme on aime le qualifier, soit tombé dans cette erreur?
On a des limites de compréhension des méthodes que l'on emploie et déplacer son écriture, je crois, c'est pas simple. Il avait trouvé, je crois que en plus la fabrication de ces discontinuités du début. Il l'a fait par intuition. C'est-à-dire que chez Tati, il n'y a pas une pensée. Bien sûr, il y a une pensée, mais c'est une pensée des pratiques, de l'intuition, de la fabrication. Il n'y a pas une analyse, il n'y a pas une pensée en recul. Il n'y a pas de recul. Les gens, d'ailleurs, lui reprochaient, et il n'y a rien à lui reprocher. C'est au contraire, il avait quelque chose d'extrêmement actif. Il sentait les situations. Il réagissait immédiatement. Là, on est, et on va l'être aussi dans Trafic, on est avec la volonté, puisqu'on a des magnétophones portables, on va passer à une nouvelle technologie et on va enregistrer le réel tel qu'il est. C'est formidable, on a des outils qui nous permettent de le faire. Sauf que ces outils fabriquent une continuité qui n'a rien à voir avec notre écoute.
Je prends toujours une musique qui est déjà faite, qui est écrite, parce que lorsque l'on donne les images à un compositeur, il se croit dans l'obligation de souligner ces images et donc, si vous voulez, de ne pas entrer dans une véritable création. Dans mon cas, si vous voulez, le compositeur, je lui demande, dans le fond, d'avoir fait sa création, seul, lui-même, pour lui. Et c'est cette musique que je choisis parce que elle est plus pure, elle est plus nette, et je crois que le compositeur a raconté ce qu'il avait à raconter sans s'occuper et sans savoir que c'est pour un film de moi ou de quelqu'un d'autre.
Je me sens un peu gêné de vous demander un tel service, mais je serais vraiment flatté de voir mon beau-frère entrer dans une de...
Eh bien, écoutez, d'accord, il suffira que votre frère...
Mon beau-frère.
Votre beau-frère se présente à Mademoiselle Venier, chef de service du personnel.
Eh bien, dans ce cas, si vous le permettez, je vais lui téléphoner.
Vous en prie.
Merci. Allô? Voulez-vous me donner le 24 à Saint-Maur? Mon beau-frère n'a pas le téléphone, mais quand on veut le joindre, on le trouve toujours à ce numéro-là. Allô? Voulez-vous me donner Monsieur Hulot, s'il vous plaît? Oui, Monsieur Hulot. On va le chercher. Allô? C'est vous, Hulot? Ici Arpel, votre beau-frère. Il faudrait que vous veniez à la SDRC. Oui, RC, c'est ça. Derrière du charbon. Vous présentez. C'est en café, alors. Allô? Fermez donc cette porte, voyons. Dans un quart d'heure, c'est ça. Je suis navré, vraiment. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, monsieur le président. Au revoir, monsieur le président.
On a fait un petit détour par mon oncle Daniel D. de 53 pour illustrer ce qu'a dit Tati juste avant. C'était en 68, cette fois-ci, dans l'émission La musique et les hommes, où il disait bien qu'il prenait toujours une musique du film déjà faite. Il fallait que la création de la musique soit faite indépendamment du film. Et l'extrait de mon oncle était assez intéressant à ce niveau-là, puisqu'il est un des meilleurs exemples de la manière que peut avoir la musique de s'ancrer au sein du film, puisque là finalement il passe un coup de fil et c'est l'univers sonore du lot qu'on entend avant, et non pas sa voix d'ailleurs.
Voilà, et ça c'est à mon sens la plus belle utilisation de la musique de film au cinéma. J'ai jamais vu un tel ancrage, c'est inimaginable. J'ai d'ailleurs mis du temps à la saisir et à m'en rendre compte, parce que ça passe tout seul. On est tellement habitué à ce que dans la ville ancienne il y a une musique en permanence avec les cris des camelots que finalement ça représente la ville ancienne. Et or là il est dans le bureau du PDG, dans le Nouveau Monde, et quand il appelle Hulot, ce que l'on entend par le combiné téléphonique, c'est non pas la voix d'Hulot, non pas seulement les ambiances, mais la musique. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette musique, qui est en fait l'esprit des lieux, c'est pas une musique qui passerait par des haut-parleurs en quinzaine commerciale, comme ça se fait après dans les années 80 ou 70, mais c'est l'esprit même de la ville ancienne. Il arrive, à confirmer que cet esprit-là est constitutif de l'ancien monde en leur passant réellement à travers le téléphone. Si ça passe par le téléphone, c'est que c'est de la réalité du monde. Ça, c'est sublime. J'ai jamais vu un réalisateur penser l'ancrage de sa musique comme ça. C'est là, il y a quelque chose, comment dire, qui en plus vient pénétrer le nouveau monde, c'est-à-dire c'est le chaos de l'ancien monde qui arrive dans ce bureau par un coup de téléphone. Et alors il insiste, parce que Tati souvent met deux fois, voire trois fois le même effet, pour bien nous le faire entendre et nous dire, mais vous vous trompez pas, et si vous l'avez pas entendu, je vais vous le refaire. Donc le PDG, une fois qu'il a raccroché, reprend le téléphone et il dit, je vais demander à ce qu'on nous dérange pas, parce qu'il y a des nouveaux invités qui sont là. Et quand ils décrochent, on entend encore la musique avec les cris des camelots du marché. Ils raccrochent et on voit le plan d'où vient évidemment ce son. C'est un plan qui est pris dans le café où on voit que le téléphone est resté décroché. Donc il explique d'une manière complètement abracadabrante le fait, la raison pour laquelle on continue d'entendre. Et on voit Tati qui part avec son Solex au rendez-vous. Donc Et le balayeur qui marche dans le crottin de cheval. Donc c'est extraordinaire cette façon de confirmer les éléments. Et moi-même, qui suis pourtant quelqu'un du son, je n'ai pas compris ça pendant je ne sais combien de temps. C'est-à-dire j'ai vu cette scène à répétition, je la montrais à des étudiants quand je faisais de la formation, etc. Et je n'avais pas remarqué à quel point c'était savant, c'était construit, reconstruit, c'était désigné et répété. Et on ne l'entend pas.
On l'entend sans la comprendre.
Disons que on n'a pas conscience de ça. On n'arrive pas à... C'est ça la question fondamentale du sonore. C'est la conscience d'écoute. On n'a pas de conscience d'écoute. On est embarqué dans les scènes. Le synchronisme nous fait vivre les scènes. On rit. On est complètement... ça me rappelle un moment extraordinaire. Je me souviens quand je débutais au cinéma dans les années 70, un mixage que faisait Antoine Bonfanti, qui était un mixeur extraordinaire avec qui je travaillais à l'époque. Et je me souviens qu'à un moment donné du mixage, il oublie d'ouvrir la voix du comédien qui est à l'écran, quoi. Et donc c'est lui qui a les manettes sous les doigts, il fait le mixage et il oublie. Et il me dit, Daniel, j'étais au cinéma. C'est dire à quel point l'image et le synchronisme nous embarquent dans le film et nous empêchent d'avoir une conscience d'écoute. On n'a même plus de distance, au point où même celui qui doit construire le son du film oublie de le faire.
Difficile de résister quand même à ce moment, cette pastille. On est dans les vacances de Monsieur Hulot. Monsieur Hulot s'assoit et écoute de la musique. Voilà. Et d'abord, on entend la musique qui vient assourdissante au sein de l'hôtel. Et on suit l'un des pensionnaires qui est quand même gêné par la musique et qui trouve Monsieur Hulot pipe en bouche face au gramophone ou je sais pas, en train d'écouter la musique extrêmement forte. Comme il n'arrive pas à le faire arrêter d'écouter, ils éteignent le courant et donc le son lui-même meurt.
Et alors, c'est complètement paradoxal parce que si c'est un gramophone, ça marche pas électriquement.
Ouais.
Donc là, il joue sur justement ce passage du phonographe à manivelle à l'électricité. Et il nous dit...
C'est vrai d'ailleurs, au-delà de toute vraisemblance, mais complètement. Qui tient tellement à la vraisemblance, Tati, c'est étonnant.
Et voilà, c'est-à-dire qu'il réarrange ces vraisemblances, il réagence les relations entre les éléments. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'il nous dit là que bientôt, voilà, maintenant avec l'électricité, on va pouvoir calmer les voisins qui nous embêtent avec leur phonographe. Parce qu'il faut se dire qu'à l'époque du phonographe, le son ne pouvait pas être baissé. Donc le voisin qui écoutait le phonographe l'écoutait toujours au niveau nominal de l'enregistrement et de son appareil. C'est-à-dire que quand on mettait un disque dans un immeuble, tout l'immeuble participait à la musique. Et je crois que c'est ça qui est très fort chez Tati, c'est qu'il nous montre des relations entre les êtres. Et la question du sonore est au centre de cette question-là. Quelque chose qui n'est pas au singulier, de la même façon qu'il fait des plans d'ensemble, qui montre pas des êtres isolés, qui ne les isole pas dans le cadre, qui ne les stigmatise pas, qui ne les les désigne pas comme élément en soi. Au contraire, il montre des relations, et des relations qui sont tout le temps abracadabrantes, des relations qui sont inattendues, des hasards de synchronisme. C'est complètement incroyable. Quand Hulot arrive avec sa voiture, la dernière pétarade de la voiture est calée avec le torchon du garçon de café qui met le torchon sur son épaule. C'est quoi ce synchronisme? C'est un hasard, mais c'est en même temps, voilà, une façon de faire circuler le passage d'une écoute à l'extérieur à une écoute à l'intérieur.
Et c'est un ressort comique incroyable aussi, on l'a pas dit quand même. Évidemment. Et finalement, toute cette utilisation du son que vous évoquez là, à chaque fois, fait sourire, voire rire.
Évidemment.
C'est le décalage vis-à-vis du monde qu'il exprime par là.
Voilà, c'est aussi, alors tout ça, il le joue aussi avec les échelles, il triche les échelles, il nous montre des événements de détail dans un plan général, avec un son proche. Par exemple, dans Mon Oncle, on a dans ce premier plan sur la maison Harpel, Monsieur Harpel qui est sur sa terrasse, qui prend son café, et le son de la tasse dans la soucoupe est très gros plan. Alors que les arbres au-dessus bougent, il y a du vent. Maintenant, on mettrait du vent sur toute la scène. Pas du tout. Il mettra aucun son. Il mettra juste la tasse qui est posée sur la soucoupe et qui est grossie.
On parle de gros plan pour un son aussi?
Évidemment. Alors, c'est un abus de langage, parce qu'en fait, c'est une proximité, on devrait dire. Mais en tout cas, il triche le rapport de plan, de format, on pourrait dire, de format entre la prise de son et la prise de vue. On a un gros format sur la prise de son et un plan général, un plan de grand ensemble sur la prise de vue. Donc, il y a là un travail de rapprochement qui se fait ou d'éloignement. Et puis, il y a un travail sur la plastique des éléments sonores qui nous fait entendre. C'est-à-dire qu'il va travailler, là on entend sur les pas des personnages qui sont dans le bureau du PDG, on entend les pas qui sont faits avec des balles de ping-pong. Une est crevée, l'autre ne l'est pas. Et donc ça fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il va caractériser chaque pas de manière différente, hein. Tout le temps. C'est tout au singulier, mais c'est en même temps dans une vision plurielle.
La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. T'as changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y'a du lilas et y'a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour.
Un grand merci Daniel Day d'être venu nous parler de Tati aujourd'hui. C'est vraiment passionnant de vous entendre en parler. On se quitte avec Charles Trenet qui est lui aussi grand observateur du son autour de lui et cette chanson. Je rappelle que vous êtes professeur à l'ENSAT, vous venez d'être nommé professeur à l'ENSAT d'analyse des pratiques du sonore, vous êtes également ingénieur du son. Et on peut lire de vous deux ouvrages par aux éditions Klinksic, Entendre le cinéma et Pour une écriture du son, ainsi qu'un autre livre malheureusement indisponible, alors l'appel est lancé à une nouvelle édition de l'écriture sonore qu'on trouve aux éditions Entrevues.
Et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de nuages. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum.
Et c'est avec un pincement au cœur que nous terminons cette semaine sur Tati, mais heureusement, Géraldine Mossin-Savoie vient de rentrer en studio, elle va nous mettre du baume sur le cœur. Il est 10h51, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est l'heure des 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Et en plus, vous allez changer d'ambiance sonore, ce qui va nous rendre le sourire.
Complètement, on va parler de David Bowie, Bowie, philosophie intime. C'est de Simon Crichley et c'est sorti aux éditions de La Découverte. Je me souviens très clairement de ma réaction physique à l'écoute de Suffragette City de David Bowie. La pure excitation corporelle produite par cet objet sonore était presque insupportable. C'était sexuel, tout simplement. J'ai ressenti dans ma chair quelque chose de puissant et d'étrange que je n'avais jamais connu auparavant. J'avais 12 ans, ma vie venait de commencer. À 12 ans, le philosophe anglais Simon Critchley, comme il le raconte ici, a donc découvert Bowie, le sexe et lui-même. Bowie ou une manière d'entrer en contact avec sa propre intimité, voilà le propos de ce court essai qui est paru en France, en même temps que l'exposition consacrée aux musiciens à la Philharmonie de Paris depuis mars dernier. De 1972 à aujourd'hui, Simon Critchley écrit donc ici le fil conducteur de son existence au gré d'une bande-son écrite par Bowie. Il ne prétend pas proposer une philosophie de Bowie ou un accès au vrai, à l'authentique Bowie, non, sa démarche est beaucoup plus originale. Il s'agit de repenser sa propre intimité, son identité, à partir de l'œuvre de Bowie, et sans jamais faire en quelque chose de linéaire comme l'identité narrative, mais une succession de flashs épisodiques suscités par les éclats de Bowie. And in the death, as the last few corpses lay rotting on the slimy. Comme on l'entend dans Future Legend, Bowie parle d'une atmosphère de mort. Et c'est bien dans une atmosphère de mort, celle d'un monde en ruine, d'une dystopie jouée par Bowie, que Simon Critchley repense cette idée même d'identité. Alors face à l'effondrement des valeurs, à la confusion revendiquée des genres, au néant post-révolutionnaire, rien ne sert de vouloir sauver l'idée d'une identité. Mieux vaut, comme Bowie, cultiver l'illusion, choisir sa propre mort comme celle de Ziggy Stardust, changer de costume comme de peau. Et c'est précisément dans cette recherche sans relâche de réinterprétation, de destruction et de perfectionnement de sa propre étrangeté que se cache peut-être la vérité d'une intimité et que se découvre pourquoi pas l'horizon politique de plusieurs intimités étrangères qui s'unissent pourtant, car comme le dit Bowie... You're not alone.
Merci beaucoup, les nouveaux chemins touchent à leur fin. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales et surtout cinématographiques concernant l'émission du jour. Et puis vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Restez à l'écoute sur France Culture.